22 septembre 2021, autre édition du podcast La Relève, cette fois un peu plus intime seulement, Martin et moi sommes présents pour vous parler du plus récent camp des recrues des Canadiens qui est maintenant derrière nous. Martin, avoue que ça faisait du bien de revoir du hockey, pas juste à Montréal, on en a regardé partout à travers la NHL.
Et mon Dieu, j'ai été occupé. Honnêtement, c'était simplement un délice, là. J'ai regardé, là, je peux vous en parler pas mal, des espoirs, là, d'à peu près toutes les équipes, là. Évidemment, j'ai vu les Canadiens, j'ai vu le Wild, j'ai vu les Blackhawks, j'ai vu, bon, les Sénateurs, évidemment, là. Mais tout ça pour dire, on en a mangé, on en a écouté, puis ça fait du bien de retrouver un petit peu, là, notre routine habituelle de passionné de hockey, là.
Exact. Puis, autant c'était le fun de regarder du hockey un peu partout, c'était le fun évidemment de regarder le Canadien de Montréal en action. Ça ne s'est pas tout à fait déroulé comme prévu dans les rencontres face aux Sénateurs. Honnêtement, on voyait que les Sénateurs avaient plus de talent sur la patinoire. T'sais, il y a peut-être des joueurs un peu plus NHL ready. Un gars comme Shane Pinto a quand même disputé plusieurs rencontres avec les Sens, puis ça paraissait. Mais il y a quand même certains flashs, certains joueurs qui ont réussi à se démarquer de la part des Canadiens de Montréal. Quel joueur a retenu le plus ton attention, Marty?
Ben, tu sais, pour revenir aux défaites face aux Sénateurs, puis si on a regardé un peu les rencontres, on se dit, OK, les Sénateurs ont été tellement dominants. Mais c'est ça, je pense que tu fais bien de le mentionner. Il faut prendre ça avec un bémol, parce que les Sénateurs sont arrivés là pratiquement avec une formation de la Ligue américaine. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont eu de l'expérience en raison de la COVID, là. Mais ils ont eu beaucoup d'expérience dans la Ligue américaine la saison dernière. Je pense à probablement que les amateurs de la LHGMQ vont se rappeler de Egor Sokolov, là, l'ancien des Eagles du Cap-Breton, qui a été assez dominant, là, très très gros gabarit. Ben, lui, il a eu des rencontres dans la Ligue américaine. Ridley Gregg, l'espoir de premier tour en 2020 des Sénateurs, était là également. Et tu as des joueurs qui vont se retrouver également avec les Sénateurs de Belleville, comme Maxence Guenette en défense devant le filet, Kevin Mandelaez, des joueurs comme ça. T'sais. Donc, je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. T'sais. Cela dit, il y a quand même des choses intéressantes chez les espoirs du CH. Le premier, moi, qui a retenu mon attention, puis je suis certain que c'est ton cas également, désolé, moi, c'est Joshua Roy. T'sais. Je te relance là-dessus parce que moi, je l'ai vu jouer assez souvent, surtout pour préparer les capsules et la GMQ de la saison dernière. Donc, Joshua Roy, je le connaissais déjà beaucoup. Mais toi, qui l'avais jamais vraiment vu jouer, comment t'as trouvé ça, toi?
Ben, j'avais quand même vu jouer un petit peu l'année dernière parce que c'était quand même son année de repêchage. Puis évidemment, je m'intéresse au prospect. Puis tu l'avais tellement classé haut que je voulais voir ce joueur-là d'un peu plus près. Il m'a vraiment impressionné. Puis je parle pas seulement en termes de points, là, où je le sais qu'il a marqué à deux occasions. Il y a aussi deux belles passes, là, sur les buts de Michak et de Raphaël Harvey-Pinard. Mais c'est vraiment pas au-delà des points, c'est son implication. C'est un joueur qui ressortait beaucoup. C'était souvent son trio qui était le plus efficace sur la patinoire. Et pour moi, en cinquième ronde, ça pourrait être un vol. Et je te dis ça aujourd'hui, mais je te le disais la semaine dernière aussi. Et je te l'ai dit en juillet au moment du repêchage. Mm-hmm. Ce joueur-là, quand le Canadien soit en mesure de le sectionner au cinquième tour, moi, ça m'a vraiment jeté par terre. Et là, de le voir sur la patinoire tenir son bout. Parce que c'est une chose de tenir son bout comme Raphaël Harvey-Pinard quand tu es plus vieux. C'en est une autre quand tu es beaucoup plus jeune, comme c'est le cas de Joshua Roy. Puis moi, je trouve que c'est le joueur attaquant, défenseur, gardien de but, toujours confondu sur la patinoire, qui s'est le plus démarqué. Donc là, je te rejoins à 100%. Puis honnêtement, je trouve que c'est un très beau projet. Et là, avec le camp d'entraînement qui s'amorce, ben là, aujourd'hui, là, si tu le sais, je t'apprends rien, c'est les tests physiques, mais qui s'amorce demain, c'est un joueur que je vais surveiller et j'espère qu'il va avoir une rencontre préparatoire qu'on va lui donner.
Mais tu sais, c'est drôle, avant d'entrer pour le podcast, je m'amusais à regarder un peu les invités au camp principal, justement. Joshua Roy a été invité, ainsi que des joueurs comme Xavier Simoneau, Raphaël Harvey-Pinard, certains autres. Là. Mais tout ça pour dire que les espoirs de récemment repêchés, si tu veux, il n'y en a pas, et surtout à l'attaque, en défense, il y en a un peu plus. Mais en attaque, il n'y a pas énormément de joueurs repêchés lors du dernier encamp qui ont été invités. Joshua Roy, peut-être un des seuls. Est-ce que... Là, c'est hypothétique. Je ne suis pas dans le secret des yeux, là, sauf que... Est-ce que ses bonnes performances au camp des recrues lui ont forcé la main pour l'inviter au camp principal? S'il avait été plus ordinaire, est-ce qu'il serait retourné directement avec le Phoenix de Sherbrooke? Moi, j'ai le goût de penser que c'est une belle récompense, c'est une belle surprise. Ben, écoute, je pense que les dirigeants des Canadiens savaient ce qu'ils avaient sous la main en le repêchant. Mais là, je pense qu'ils ont été encore plus impressionnés de voir à quel point il s'impliquait davantage. Et là, c'est pourquoi on lui a donné un petit nanan, dans le fond. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec Joshua Roy, je vais être honnête avec toi, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont surpris. J'ai toujours trouvé que c'est un joueur excessivement complet, un potentiel top 6 dans la LNH si se développe super bien. Moi, il y a un aspect qui a retenu mon attention, là, et avant le camp des recrues, bon, on en parlait, puis ça semblait un peu c'est un peu flou, si tu veux. Mais là, c'est beaucoup plus clair. Clairement, sa perte de poids durant l'été lui a fait extrêmement du bien. Il a perdu une vingtaine de livres. Honnêtement, j'ai comparé des séquences vers la fin de la saison dernière. Simplement le facial, si tu veux. Et son facial maintenant, c'est indéniable. Il a vraiment, vraiment perdu beaucoup de poids. Et ça s'en dit long un peu sur... En fait, ça éclaircit certains questionnements que j'avais la saison dernière. Et lorsque je regardais des analyses de certains experts, souvent les gens disaient « Joshua Roy, c'est pas quelqu'un qui s'implique toujours. C'est quelqu'un qui a un manque de constance. » À la limite, même le monde pensait que pratiquement c'était un lâche, là. Même Joshua Roy l'a un peu mentionné cette semaine. Les gens trouvaient que j'étais lâche, je veux changer l'opinion des gens là-dessus. Moi, j'ai trouvé... Puis moi, dans mon personnage, j'étais comme, il me semble qu'il travaille, il me semble qu'il fait des replis défensifs, c'est le premier à essayer de lever le bâton de l'adversaire, puis après ça, à effectuer une relance rapide. C'est pas un trait de caractère que quelqu'un, ça, qui manque d'intensité. Mais si tu manques, puis tu le sais probablement des os, là, je pense que dans notre vie, on joue pas dans la Ligue nationale, puis c'est pas pour rien, c'est qu'on est pas en forme comme eux, là. Et tout ça pour dire que, tu sais, j'ai déjà joué au hockey, j'ai déjà joué en étant en pleine forme, j'ai déjà joué des matchs où je n'étais pas en forme, puis là, je peux comprendre un peu. Même si tu as la meilleure, intention du monde, même si tu veux travailler vraiment le plus fort possible, ton cardio fait simplement pas suivre, t'es tout simplement un peu toujours à bout de souffle, t'es toujours... une ou deux secondes en retard et tu ne vas pas nécessairement faire le plus gros effort que quand tu es en pleine forme. Donc, c'est là que ça m'a éclairci certains détails. Je pense que la saison dernière, les petits détails que les gens voyaient comme de la lâcheté, ben, c'était simplement peut-être un petit manque de forme physique, là. Alors ouais, que là...
Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il est passé à Sherbrooke, il a remis en question son programme de nutrition qu'il avait avec St. John. Il a dit qu'il n'était pas bien nourri et que là, maintenant, il se sentait mieux dans sa peau. Il avait vraiment l'impression d'avoir plus d'énergie, qu'il mangeait mieux et que ça faisait une différence sur la patinoire. Puis, un peu comme tu l'as mentionné à plusieurs reprises pour William Trudeau, qu'il y a une courbe de progression qui est intéressante, qu'il ne cesse de monter. J'ai l'impression que c'est la même chose pour Joshua Roy. Et depuis qu'il est à Sherbrooke, on le sent qu'il prend un step. Et là, ça s'est confirmé avec le camp qu'il a connu. Donc, l'avenir est vraiment rose. Puis, on s'entend, je ne veux pas overhyper un gars qui vient de se faire drafter en cinquième ronde. Puis, je ne dis pas non plus que ça va être le sauveur des Canadiens de Montréal. Je dis juste que ce qu'il a montré sur la patinoire, c'était intéressant. Puis, c'est vraiment quelqu'un qui a gagné des points dans le livre des dirigeants, ça, j'en suis convaincu.
Je pense qu'une autre chose qui ne ment pas, je ne sais pas si tu as vu les commentaires de Raphaël Harvey-Pinard, qui était son compagnon de trio durant le camp. Là. Tu sais, il est tout de suite allé le dire, il est vraiment plaisant à jouer avec lui, super complet, capable de créer plein de jeux, capable de se démarquer de plusieurs façons. Bien, quand ton capitaine et ton monsieur à intensité dans ce camp-là dit ça, alors que, je le répète, Joshua Roy avait une étiquette de joueur lâche, je pense que ce n'était pas vrai, honnêtement, là. Mais venant d'un joueur comme Harvey Pinard qui dit ça de Joshua Roy, ben je pense qu'il faut le prendre au sérieux et dire « OK, sais-tu quoi? » Je pense qu'il travaille davantage fort et combiné avec son niveau de talent, ses capacités de joueur complet. Comme tu dis, on ne va pas lui donner un rôle avec les Canadiens de Montréal tout de suite dans 2 ou 3 ans, mais c'est très prometteur, honnêtement. Je suis un petit peu fier de l'avoir mis un peu plus haut que tout le monde, finalement.
Ah, c'est bon. Moi aussi, je l'avais pas en cinquième ronde, mais je pense que personne l'avait en cinquième ronde. On vient à mentionner un peu son compagnon de trio. Attendons-nous sur Raphaël Harvey-Pinard parce qu'il a connu un bon camp. Personnellement, je l'ai trouvé excellent dans le deuxième match. Encore une fois, pas seulement parce qu'il a marqué, mais à partir de la moitié de la rencontre, là, bon, les Sénateurs menaient 4 à 0, il n'y a rien qui fonctionnait, Jean-François le printemps d'arrêt, et là, les choses ont vraiment changé. On a senti que Raphaël Harvey-Pinard, le fait d'avoir un C sur son chandail, il voulait que cette équipe se replace, il a attaqué le filet, il a généré plusieurs chances de marquer. Il aurait pu enfiler au moins 4 buts dans un espace d'à peu près 10 minutes. Là. Il était partout sur la glace, provoquait toujours des choses. Et moi, cette intensité-là, bon, évidemment, c'est connu, tout le monde le sait que c'est sa qualité première, Raphaël Harvey-Pinard, le fait qu'il travaille, qu'il est acharné sur la patinoire. mais j'ai hâte de le voir dans une rencontre de la LNH. Et je pense qu'il pourra en surprendre plus d'un, honnêtement, Marty.
Ben, moi, j'ai hâte de voir le camp principal parce que tu as bien fait de le mentionner, il a été bien meilleur dans le match numéro 2. Et moi, ce que j'ai trouvé avec Harvey Pinard, il s'est amélioré de match en match. Je vais être honnête avec toi. Moi, ce que tu surveillais d'Harvey Pinard, je le savais qu'il allait se démarquer, je savais qu'il allait être bon. Mais là, pour la première fois, probablement, peut-être pas de sa carrière, là, lorsqu'il était 20 ans à Chicoutimi, je pense que c'est lui qui devait monter l'exemple, mais là, c'est la première fois en tant que membre des Canadiens que c'est lui qui doit monter l'exemple. C'est lui qui a des choses à prouver. Là, c'est pas le joueur qui arrive avec aucune attente puis qui fait simplement surprendre. Là, c'est tu dois donner raison aux gens qui t'ont fait confiance. Et le premier match, honnêtement, il m'a un peu déçu. Il était Oui, Joshua Roy était très bon à côté de lui. Harvey Pinard, là, il était pas atroce, mais j'aurais aimé en voir plus. J'aurais aimé vraiment le voir dominer le match. À partir du deuxième match, comme tu fais bien de le mentionner, vers la fin, là, je pense qu'on a davantage vu Harvey Pinard. Et c'est pourquoi je dis que c'est intéressant. Dans le match contre les étoiles du sport, je sais que tu l'as vu davantage que moi, ce match-là, là, mais moi, ce qu'à moi, Harvey Pinard, tu vois, m'a semblé être un des meilleurs. Là. On parle de joueurs plus âgés. Je pense que la caractéristique entre les espoirs des Sénateurs et les étoiles universitaires, c'est que les étoiles universitaires sont plus âgées. Et ça fait en sorte que ce sont des joueurs plus développés physiquement, plus gros un peu. Et si tu te démarques physiquement, ça va peut-être plus t'aider dans ce genre de match-là. Et à l'inverse, si tu es super talentueux, mais que tu en arraches un peu au niveau physique, je pense que ces matchs-là peuvent être un peu plus difficiles. Et Harvey Pinard, moi j'ai simplement vu la première période, puis tu peux me seconder, je trouvais que c'était un des meilleurs, c'était un des joueurs qui, justement, le côté physique ne l'a pas intimidé. Tu
vois, non, exact. Puis c'est sûr qu'il est plus vieux. Ça, en partant, ça l'aide, là, comparé aux autres joueurs. Mais je te dis, j'ai eu l'impression qu'on a senti un élément de fierté dans son jeu à partir du temps d'arrêt qui a été demandé dans le milieu de la deuxième période. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, « Hey, je porte le chandail du Canadien de Montréal avec le C. » C'est important que je me donne. On aurait dit qu'il comprenait là, que c'était à lui que revenait la tâche de renverser la vapeur et c'est exactement ce qu'il a fait. Moi, puis comme tu dis, c'est pas une surprise. Tout le monde s'attendait à ce qu'il domine. Tout le monde s'attendait à ce qu'il se démarque par son implication. Mais il ne m'a pas déçu, du moins dans la deuxième partie du camp des recrues. Puis j'ai hâte de le voir là, au niveau des tests physiques aujourd'hui, comment il va s'en tirer au niveau du camp préparatoire. Et j'espère, comme je te disais, qu'il va disputer une rencontre préparatoire là, dans le prochain camp. On vient de parler du match des universitaires. Ce fut le premier match et le seul pour Jesse Ilonen. Jesse Ilonen qui, pour des raisons de vaccin, de COVID, a dû être placé en quarantaine. Lui qui n'est toujours pas vacciné, donc ça fait en sorte qu'il n'a pas pu participer aux deux premières rencontres contre les Sénateurs de Belleville. Mais il a joué hier contre les étoiles universitaires. Il n'a pas marqué. Mais il s'est impliqué. On l'a vu rapidement que c'est un joueur qui a du talent. Dès son premier chiffre sur la patinoire, bougé avec la rondelle, pris un bon lancer au filet. On l'a vu un peu plus tard en deuxième période, a tenté un tir sur réception, que le gardien a dû faire un beau déplacement pour stopper sa menace. Moi, j'aime ce que je vois de Jesse Ilonen. Puis honnêtement, c'est de loin l'attaquant qui cogne le plus aux portes de la LNH chez le Canadien de Montréal. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ah ben oui, ben pas le choix. C'est puis le match d'hier, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est surtout sa capacité de contrôler la rondelle en zone restreinte. Il y avait souvent des joueurs qui l'immobilisaient quand même assez étroitement le long de la rampe, que ce soit un attaquant ou un défenseur. Il trouvait toujours le moyen d'esquiver, d'effectuer le bon virage au bon moment, puis de contrôler la rondelle, puis par la suite faire circuler la rondelle en envoyant la rondelle par la rampe.
Ouais, ou la placer dans un endroit où est-ce que le défenseur peut pas aller la chercher pour aller la récupérer par la suite.
Exactement, mais c'est tout simplement des situations de jeu qui sont un peu difficiles parce que ton angle de ta vision périphérique est un peu plus réduite, tu vois peut-être un peu moins les options. Et si quelqu'un te met davantage de pression, ben c'est là que tu es davantage poussé à commettre des revirements. Et Ilonen s'est bien débrouillé à ce niveau-là. Non seulement il a pas paniqué, mais il a quand même trouvé le moyen de garder le contrôle de la rondelle et de garder le jeu en vie. Encore là, c'est un camp des recrues, tu joues contre des étoiles universitaires. Bon, c'est pas tellement surprenant. Maintenant, comme tu le dis, idéalement, lui, son objectif au camp, puis là, on verra bien ce qui va arriver avec sa situation vaccinale, mais honnêtement, lui, son objectif, c'est d'être un des derniers. Je pense qu'il va être retranché, mais il doit être un des derniers retranchés. Tu sais, quand tu arrives au moment du camp où il y a 27 ou 28 joueurs, on commence à potentiellement savoir à quoi va ressembler la formation. Je veux que Jesse Lionel soit là. Je veux pas qu'il fasse partie des 21 joueurs retranchés lorsque le camp du Rocket de Laval va commencer. C'est ça son objectif. Et il y a plein d'aptitudes qui le prédispose à être à avoir un impact dans la LNH. Son coup de patin est quand même dominant. Et là, s'il trouve le moyen de se démarquer comme ça le long des rampes, ben honnêtement, sur un troisième ou un quatrième trio, ça va être une mission qu'on va lui exiger. Là.
Mais le problème, Marty, c'est vraiment sa situation vaccinale. C'est que là, le Canadien est un peu pris dans un coin parce que qu'est-ce qu'on fait? Et on s'entend, il ne percera pas l'aliment du Canadien de Montréal cette année, vaccin ou pas. C'est sûr que non. Pas avec la formation, les ailiers que le Canadien a en haut. Ça, oubliez ça. Dans tous les cas, ça n'aurait pas arrivé. Mais est-ce qu'il va pouvoir jouer dans la Ligue américaine? Est-ce qu'on va le garder dans la Ligue américaine juste pour affronter Ottawa et Toronto? Il ne pourrait pas participer aux matchs qui sont aux États-Unis? Est-ce qu'on va être obligé de le renvoyer en Europe? Est-ce qu'on va être obligé de l'échanger? Et je veux dire, qu'est-ce qui va se passer avec la... Parce que c'est la question de la frontière. Là. C'est ça le problème. Là. C'est quoi l'avenir pour Jesse Ilonen?
Ben, c'est certain. On va laisser le côté COVID-19 de côté. Là, on n'est pas dans sa tête. On ne sait pas exactement c'est quoi réflexion par rapport à ça.
Martin Leclerc l'a sorti là, au 91-9. Là, il y a un traumatisme dans sa famille lié à une question de vaccination et c'est la raison pour laquelle il ne voudrait pas se faire vacciner. Okay, c'est ce qui est sorti un peu plus tôt aujourd'hui. Mais c'est vraiment pas ça le débat aujourd'hui. Je veux plus qu'on s'attarde sur le joueur. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait avec Jesse Ilonen?
Ouais. Ben, c'est certain que s'il n'est pas vacciné, en partant, tu ne peux pas aller jouer aux États-Unis. Tu ne peux pas effectuer les déplacements interfrontières. Et là, la saison dernière, ça aurait fonctionné. Les matchs étaient seulement au Canada. Tu te dirigeais simplement à Winnipeg pour affronter le Moose Manitoba ou tu affrontais le Heat de Stockton qui jouait. C'est une équipe de la Californie, mais elle jouait spécialement à Calgary en raison des restrictions par rapport à la frontière. Là, le problème, c'est que ça revient en temps normal. Le Rocket de Laval va davantage aller jouer sur la côte est américaine contre des équipes comme Utica, Springfield. Tu comprends ce que je veux dire? Ils vont toujours être du côté des États-Unis. Donc, honnêtement, malheureusement, à part quelques matchs contre les Marlies de Toronto et les Sénateurs de Belleville, il ne va pas disputer de match. On va être honnête, il ne va pas disputer de rencontre. C'est aussi bien de l'envoyer en Europe dans ce cas-là. Qu'il aille en Europe, qu'il joue dans la Liga finlandaise, c'est pas nécessairement une mauvaise ligue. Qu'il se développe là, qu'il profite d'un peu plus de temps de glace, même si les paramètres ne sont pas les mêmes que le hockey nord-américain. C'est certain que ce serait mieux de le voir à Laval, mais j'aime mieux le voir du côté de l'Europe de se développer comme il peut, que de jouer un match sur 3 ou 4 ou 5, même dans la Ligue américaine. Et l'autre aspect aussi, c'est que l'esprit d'équipe, c'est quand même important. La camaraderie avec tes coéquipiers, on le sait, c'est des voyages en autobus. Lorsque le Rocket va être parti du côté de Utica, justement, ou Bridgeport ou Providence, ça va être un voyage d'une semaine et demie, puis lui, il va demeurer à Laval. C'est un peu... pas certain que c'est bon pour lui nécessairement. Tu sais.
Exact. Il va être confiné à jouer seulement les matchs à domicile puis les matchs là, au Canada. Puis c'est, comme tu dis, puis en même temps, c'est de garder un certain rythme, de toujours être arrêté, de pas pratiquer avec l'équipe parce que l'équipe est partie. Ça fonctionne pas. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. J'ai hâte de voir comment l'organisation va gérer ce beau problème-là parce qu'on s'entend. Puis on en a déjà parlé. Le Canadien est plus solide avec la défensive en ce moment au niveau des prospects. À l'attaque, c'est plus mince. Ceci dit, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a certains joueurs qui, parce qu'ils évoluent en NCAA, ne peuvent pas participer au camp. On pense à Deschamps Farrell, des Luke Tuck notamment. Oui, il y en a d'autres, mais ça reste que le joueur qui est le plus près de la Ligue nationale, c'est Jesse Ilonen. Mais là, mon point, c'est que si tu le renvoies en Finlande, ce qui, dans ma tête à moi, va arriver, et que là, tu as une hécatombe de blessures, Hoffman, tu as Foley, Caulfield, tout le monde se blesse. Tu peux pas le rappeler, là?
Non, tu pourrais, là. Ben, encore là, je veux dire, le problème est le même dans la LNH, là. Si ça se trouve, même les Canadiens vont jouer davantage de matchs aux États-Unis à affronter les Bruins, les Rangers, les Islanders, les Pingouins, en tout cas. On a toutes les équipes américaines, là. Le problème est encore plus compliqué. Ils pourraient tout simplement pas jouer, malheureusement. la beauté de la chose, même s'il n'y a pas nécessairement des Ilonen, c'est que si je regarde la formation que j'avais contactée la semaine dernière, là, je ne sais pas si tu te souviens que je m'étais fait une genre de prédiction qui allait jouer à Montréal, qui allait jouer à Laval, qui allait jouer à Trois-Rivières. Tu sais, des joueurs comme Harvey Pinard, comme Ryan Poehling, comme Alex Belzile, ben, je pense que ce sont tous des joueurs qui pourraient avoir des rappels et qui peuvent potentiellement faire un travail plus connaître. Là, c'est certain que ce serait mieux d'avoir Ilonen parce que son coup de patin est très efficace. Mais bon, et je pense qu'il y a d'autres options également à Laval. Puis on ne sait jamais. Un gars comme Gabriel Bourque a un contrat de Ligue américaine pour l'instant. Ça se pourrait très bien que les Canadiens décident de lui offrir un contrat de la Ligue nationale. S'il performe bien, évidemment. Là. Il n'a quand même pas joué la saison dernière. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a tellement de talent à Laval cette année que tout est possible.
Oui, exact. Espérons que la situation évolue, puis pas juste pour Ilonen, mais pour tout le monde, que le COVID, là, qu'on mette finalement ça derrière nous, et que l'année prochaine, que les restrictions là, soient amenies, puis là, qu'on soit en mesure de justement aller de l'avant, puis qu'il n'y ait plus ces problèmes-là. Mais bon, la situation va évoluer, et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec un peu cette patate chaude-là là, du côté de l'organisation des Canadiens. Bon, on s'en est parlé, Marty, la semaine dernière. C'était vraiment la défensive que c'était le plus qu'on allait le plus surveiller le camp des recrues. Pour l'espèce de monstre à deux têtes, là, les deux top prospects du Canadien de Montréal, sur Mathias Norlinder et Kaden Gooley. Commençons par Norlinder. Personnellement, il m'a un petit peu laissé sur ma faim. A démontré certaines aptitudes offensives. Ça, il n'y a personne qui a de doute là-dessus, notamment dans le premier match. Là, un revirement, je pense que c'est Pinto qui a fait une passe là, à l'aveuglette dans l'enclave, puis là, Norlinder passait par là.
Une superbe part.
Exact. Okay. Ça, le flair offensif, les aptitudes, c'est présent. Personne n'a de doute là-dessus. Par contre, défensivement, à un certain point, la rondelle s'en vient vers lui, elle bondit, tente de la maîtriser avec son bâton, rate son coup. L'ailier passe à côté de lui, part en échapper et touche la cible. Il a quand même eu certaines lacunes défensives dans son jeu et je n'ai pas nécessairement senti, bon, il n'a pas joué le troisième match, là, mais je n'ai pas quand même senti dans le deuxième match que ça s'était corrigé ou qu'il était plus solide défensivement. Donc ça, honnêtement, c'est pas que ça me dérange parce que moi, je ne veux pas qu'il amorce la saison à Montréal, mais j'aurais aimé ça qu'il m'en démontre un peu plus défensivement.
Ouais. Ben, moi, je vais être honnête avec toi. À l'autre bout du spectre, puis on en a parlé la semaine dernière, là, moi, le côté physique de Norlinder m'agace un peu. Puis je suis obligé de t'admettre que lors des deux matchs, il m'a surpris. Il m'a davantage surpris. Mais encore là, je pense que ça s'explique. Tu joues contre des recrues, tu joues dans un camp dans lequel la majorité des joueurs, ce sont des joueurs de niveau junior, moins développés, plus jeunes. Donc je pense que c'est normal un petit peu que Norlinder, dans les deux matchs, a au moins eu de difficultés, même s'il y en a eu, là, honnêtement. Là, j'ai encore vu les espèces de problèmes d'un joueur qui déborde hors l'aile, puis lui, il est un peu mal positionné. Ça donne une ouverture au filet pour l'attaquant adverse. Ça, c'est arrivé quand même, pas à profusion, mais c'est arrivé quand même de temps en temps. Dans le cas de Norlinder, je pense que ça va tout simplement être ça. En fait, je dirais j'ai hâte de le voir également dans le camp principal, justement pour la raison que je viens de te mentionner. Ça s'est bien passé physiquement contre des joueurs plus jeunes. Là, il va débarquer contre des David Savard. Puis là, c'est certain que c'est en défense, mais...
Quand Josh Anderson va essayer de couper au filet, là, bonne chance.
Ben, c'est ça. Fait que là, je pense que tu m'enlèves les mots de la bouche. Là, Josh Anderson, probablement le meilleur exemple. Il y a fort à parier que si Josh Anderson tente sa fameuse manœuvre de déborder hors l'aile et de foncer au filet, je donne pas beaucoup de chance à Norlinder de s'en sortir. Et c'est là que ça se peut que ça se débrouille super bien, mais c'est ce que j'ai hâte de voir. Moi, je pense que ça va être énormément difficile et que c'est là qu'on va constater qu'il y a peut-être besoin d'une saison supplémentaire en Suède contre des hommes, contre des joueurs qui vont le faire travailler physiquement quand même, pas au niveau d'Anderson, mais quand même. Et surtout, dominer offensivement, je reviens à ça, mais moi, je ne sais pas pour toi. Il a montré de belles habiletés.
Oui.
Il bouge la rondelle super bien. Prend des décisions rapidement. Mais en même temps, je vais donner un exemple. Là, j'ai vu les Blues de Saint-Louis en action. Le défenseur Scott Perunovic a été partout, transportait la rondelle d'un bout à l'autre, des joueurs adverses. Vraiment impressionnant, dominant, là, pratiquement pas d'erreur. C'est ça que j'aurais... Si tu me dis que Norlinder a une place à Montréal, c'est ça qu'il aurait fallu jouer. Mais malheureusement, il a été assez... était bon, mais pas extraordinaire non plus.
Oui, c'est ça. Ses attitudes offensives, pour l'instant, ne sont pas assez élevées pour combler ses aptitudes défensives qui en arrachent un peu plus. Ceci dit, c'est pas une mauvaise chose dans l'optique qu'il va éventuellement retourner à Frölunda dans ma tête et il va savoir sur quoi il doit travailler pour la suite des choses. Mais comme tu dis, ça va être intéressant de voir là, sa progression. S'il a été capable d'apporter certains ajustements là, lors du camp d'entraînement, qui, je vous le rappelle, s'amorce demain, jeudi.
Mais ça, t'as un très, très bon point là-dessus. Le fait que là, maintenant, il sait c'est quoi le hockey nord-américain, il a affronté des joueurs qui, eux, sont des Canadiens, des Américains, qui, eux, ont pratiqué le style de jeu nord-américain toute leur vie. Et là, ça, c'est une expérience qu'ils vont pouvoir amener en Suède et travailler là-dessus. Et Norlinder, là, presque exclusivement, a joué surtout en Europe. Et en raison de la grande patinoire, le style qui est un peu plus raffiné en Europe, ça change complètement. Ça, c'est un méchant bon point, là. Il va amener ça, puis il va pouvoir travailler là-dessus davantage. Il va savoir quoi travailler, parce que là, il l'a vécu. Il n'y a jamais rien d'aussi bon que l'expérience dans la vie, tu sais.
Si on s'attendait à ce que Norlinder éprouve certaines difficultés en défensive, ce n'était pas nécessairement le cas pour Caden Gooley. Moi, je m'attendais à ce que défensivement, il soit beaucoup plus étanche, beaucoup plus solide sur ses patins. Je m'attendais quasiment qu'il soit NHL ready sur seulement l'aspect défensif de son jeu. Malheureusement, dans le deuxième match, parce que dans le premier, on l'a jumelé à Norlinder, ça s'est quand même très bien passé. Dans le deuxième match, lorsqu'il a été jumelé à Jenny Fairbrother, et il a été beaucoup plus exposé. Ça passait de son côté. Il avait de la difficulté à sortir la rondelle de sa zone. On s'entend, c'est juste un match. Et comme Carey l'a déjà dit, chill out. C'est pas grave. Là. On ne veut pas non plus virer fou. Mais ça reste que j'étais un peu déçu de voir qu'il était autant exposé par les jeunes sénateurs.
Je pense que c'est allé vite un peu. Honnêtement, là, je pense que la pression venait davantage rapidement. Tu as des gars qui vont être bons en échec avant du côté des sénateurs. On a parlé de Sokolov, mais Shane Pinto, je l'estime peut-être, j'ai peut-être moins en haute estime que d'autres, là, mais je pense quand même que c'est un excellent joueur de troisième trio qui va justement faire de l'échec avant. Là. Je pense que là-dessus, il y avait moins de temps pour faire ses jeux, Caden Gooley, et ça fait en sorte qu'il a peut-être précipité ses gestes et qu'il a commis davantage d'erreurs. Comme tu dis, je pense que c'est tout à fait normal, là, c'est de prendre une période d'ajustement. Il ne faut pas oublier qu'il a été blessé la saison dernière dans la Ligue junior de l'Ouest aussi. Il doit prendre un peu son rythme. Donc, on va bien voir, mais oui, je suis d'accord avec toi. Là, je pense que dans son cas, c'est peut-être allé un peu vite. Et c'est drôle parce que une de ses belles qualités à Caden Gooley, c'est justement de garder le jeu simple. Et là, il a comme essayé de trop se compliquer la vie. Et comme tu dis, c'est simplement un match. Je pense qu'il va s'ajuster. Je pense que le personnel d'entraîneur des Canadiens est assez talentueux pour lui faire réaliser tout ça. Là. Donc, on va surveiller.
Je veux surfer sur ce que tu viens de dire. Là. Tu joues à Brossard. La première game avait lieu à Ottawa. Là. Tu joues à Brossard. Et pour les gens qui ne le savent pas, le complexe à Brossard, ce n'est pas des estrades comme le Centre Bell. Dès la 12e rangée environ, tu as la galerie de presse parce que là, tu as tous les dirigeants qui sont là et qui te regardent. Donc, c'est sûr que pour un jeune joueur de 19 ans qui tente de peut-être en faire un peu plus, tente de sortir de sa zone de confort pour impressionner, peut se mettre les pieds dans les plats. Puis je pense que c'est un peu ça qui est arrivé dans son cas. Et dans le match d'hier, il était beaucoup plus efficace. C'était beaucoup plus simple, mais en contrepartie, ne faisait pas nécessairement d'erreur. Donc, moi, je pense que Caden Gooley, c'est ça. C'est juste de réaliser que c'est pas le Kevin Shattenkirk des belles années. Là. Mm-hmm. C'est un joueur qui doit garder les choses simples, de faire les petites choses correctement. Et il va être comme ça, il va pouvoir apporter de l'efficacité à son équipe. Moi, je pense qu'il est capable de le faire. Et c'est un joueur qui, d'après moi, va surprendre dans les matchs préparatoires qu'il va disputer parce que là, on va bien l'avoir briefé. Regarde. Reste dans tes moyens, puis ça va bien se passer.
Puis le fait d'avoir un partenaire de défense peut-être meilleur, qui convient mieux à son style de jeu, ça va peut-être être plus efficace. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça la raison pour laquelle Gooley a mal joué dans le match numéro 2, mais j'ai l'impression que Norlinder convient peut-être davantage à son style de jeu. Caden Gooley, c'est quelqu'un qui garde le jeu simple, qui est physique, qui joue surtout défensivement. C'est pas quelqu'un qui transporte la rondelle, c'est pas quelqu'un qui a des aptitudes offensives. Donc lui, et je répète, c'est un joueur qui garde le jeu simple, mais il a tendance davantage à envoyer la rondelle à son partenaire en défense, qui est Norlinder. Et Norlinder, lui, va s'occuper de transporter la rondelle ou d'effectuer les relances, ou en tout cas tout l'aspect mobile du jeu. Ça pourrait être Norlinder. Fairbrother le fait aussi, c'est pas ça le point, mais il le fait peut-être moins bien que Norlinder. Je suis pas en train de dire que c'est ça, là, mais en tout cas, peut-être que ça lui a nuit, peut-être un petit peu, là, peut-être moins confiant de la remettre à Fairbrother pour l'aider. plutôt qu'un Norlinder. Mais encore là, c'est une simple hypothèse. Ah, c'est une
hypothèse. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parlons-en un peu de Fairbrother, Marty. Un petit mot rapidement. Moi, je l'ai trouvé quand même assez beige, là, sans plus correct. Par moment, c'était bien. Par moment, un coup d'épaule ici. Par moment, une belle passe là. Mais rien pour me jeter à terre non plus. Est-ce que tu as une qualité ou quelque chose qui a ressorti dans son jeu?
Ben, écoute, je pense qu'il ne faut pas se surprendre de l'avoir vu. Je pense que c'est un des défenseurs les plus dominants des Canadiens quand même. Là, le bémol que je vais apporter, c'est que c'est normal qu'il ait dominé. C'est un joueur qui a eu de l'expérience dans la Ligue américaine la saison dernière. Bon, 3 matchs, mais quand même. C'est un des joueurs les plus âgés au camp également. Donc, c'est normal de le voir dominer comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des facettes précises de son jeu que tu regardes et tu dis « OK, ça fait en sorte qu'il va devenir un joueur de la Ligue nationale? » Malheureusement, non. Il a transporté beaucoup la rondelle, il a appuyé beaucoup l'attaque, mais pas comme un Norlinder, pas comme un Perunovic que j'ai nommé tout à l'heure.
Ah, il
n'y a
pas comme un du tout. Là.
C'est ça, il est capable de transporter la rondelle, mais ce n'est pas exceptionnel. S'il débat contre des joueurs un peu plus talentueux, je ne suis pas sûr que c'est les jeux qu'il faisait contre les étoiles universitaires, ça va fonctionner contre les espoirs des Maple Leafs de Toronto, par exemple. C'est ça le gros problème. Il n'y a pas un mauvais lancer capable d'envoyer la rondelle au filet, mais c'est pas chez Weber non plus. Donc, tu comprends, je pense que dans un camp des recrues, ça va être correct parce que le calibre est moins bon. C'est pourquoi il a été repêché 3e tour, puis c'est pour ça que c'est un joueur honnête dans les rangs juniors, dans la Ligue junior de l'Ouest, pour la nommer. Là. Mais c'est une autre chose d'être assez exceptionnel et assez dominant pour aller dominer face aux meilleurs au monde. Et malheureusement, ça a un peu confirmé ce que je pense. Là, c'est ça. Comme, tu me dis que tu l'as trouvé un peu beige. Moi, je trouve que c'est exactement le bon terme, honnêtement.
Mais c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas une facette de son jeu qui ressort. Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il est mauvais. Mm-hmm. Ça veut juste dire qu'il n'impressionne pas. Et comme tu l'as dit, il est capable de fermer la ligne bleue, il est capable d'envoyer la rondelle au filet, il est capable de transporter la rondelle, il est capable de faire une bonne passe. Mais il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui le fait mieux que lui, dans chacun des aspects. Ça va quand même peut-être lui permettre d'atteindre la Ligue nationale un jour dans un rôle de 5e, 6e défenseur, mais il y a encore du pain sur la planche là, avant d'y parvenir. Restons chez les défenseurs. William Trudeau, c'est un joueur que tu voulais surveiller, Marty, notamment marqué dans le match numéro 1.
Ouais, moi, j'ai la semaine dernière, rappelle-toi, moi, je te disais, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir sa progression, j'ai hâte de voir à quel point contre les meilleurs espoirs des Canadiens, contre avec ces joueurs-là, comment il va se débrouiller, est-ce qu'il va ressortir du lot? Et honnêtement, surtout le premier match, je ne suis pas pour toi, désolé, mais le premier match, je l'ai vraiment aimé, honnêtement, là, il n'a pas été intimidé, transportait la rondelle, démontrait une certaine confiance, si tu veux. On fait souvent des espèces de petits gestes de bouger la rondelle est-ouest. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est pas laissé impressionner par les adversaires des Sénateurs d'Ottawa de l'autre côté. Et il a même marqué quand même un beau but. Là. Il était en termes anglais un backdoor, si tu veux. Il a reçu la rondelle. Puis il a repéré tout de suite qu'il n'y avait pas vraiment d'option de passe. Il n'y a pas vraiment une excellente chance de marquer non plus. Mais il a repéré. Donc, c'est un peu avancé, puis il a soudainement repéré que le gardien de but était peut-être un peu hors position, donc a contourné le filet, puis a marqué dans une cage béante. Ça, c'est un... Tu sais, je vous le disais souvent, là, la qualité numéro 1, je trouve, chez William Trudeau, c'est son sens de l'anticipation. Il profite de chaque petite seconde d'espace supplémentaire qu'il a, il va en profiter, puis il va créer quelque chose de plus intéressant en attaque. Ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Bon, il n'a pas été invité au camp principal, mais j'ai trouvé que c'était très prometteur pour les prochaines années. Ça va être intéressant de le suivre à Charlottetown, là, comme quand je te parle de sa progression constante. Là. Donc là, en principe, on devrait le voir dominer la LHGMQ. On verra comment ça va se dérouler. Est-ce que sa progression va se poursuivre ou ça va stagner? Ça va être vraiment intéressant à suivre.
Ouais, c'est pas le seul là, qui n'a pas été invité au camp principal. L'autre que j'aurais aimé voir poursuivre sa route, c'est Riley Kidney, qui lui aussi a été retranché. Là, je les ai devant moi, là, les joueurs, là, je les souligne rapidement, le Tack Bertuzzi, Campbell, Thomas Caron, Mika Sir, qui a quand même surpris, a marqué à quelques occasions. Un joueur que tu voulais qu'on regarde, Marty, c'est Hayes. Lui non plus, il n'a pas été en mesure de faire le camp principal. Restons honnêtes, là, il n'a pas connu un camp des recrues à tout casser. Là, ça ne lui a pas permis de s'acheter un billet pour le camp. Puis avant que tu renchérisses là-dessus, juste préciser que Pilote Charles-Antoine Roy et Siri Zotti ont aussi été retranchés.
Ouais, ben écoute, c'est pas nécessairement une surprise. C'était quand même un joueur invité, puis ça sert à remplir des chandails, surtout dans le camp des recrues, justement. Là. Mm-hmm. Donc, je suis pas énormément surpris. J'avais hâte de voir comment il allait se comporter. Et puis c'est certain que, si je me trompe pas, il a disputé un match sur trois. Y a-t-il disputé le match contre les Étoiles universitaires? Je pense pas, non.
Je pense pas. Tu vois, s'il l'a disputé, je l'ai vraiment pas vu sur la glace. Je peux vérifier, là. Mais c'est pas un joueur qui a sorti ici.
Ouais. Moi, de mémoire, il a simplement disputé le deuxième match. Mais bon, tout ça pour dire que je pense qu'on a vu que c'est un joueur impliqué. On a vu que c'est quelqu'un qui a besoin de s'impliquer dans le match, puis de mettre de l'échec avant, puis de travailler fort. Ce que je vous avais dit la semaine dernière, je pense que c'est un joueur qui aime travailler fort, aller dans les coins, malgré sa petite taille. Là, maintenant, malheureusement, je pense que justement, je viens de le mentionner, la petite taille, mais là, je pense que ça lui a nuit, surtout contre... Tu sais, les espoirs des Sénateurs sont à peu près tous... Ils sont tous de très gros gabarits. Là, je pense que c'est une philosophie d'organisation qui s'en vient, là. Donc, je pense que ça lui a un peu nuit. Et malheureusement, là, je suis d'accord avec toi, il a été assez invisible et sur le plan offensif, surtout. Je suis même pas capable de te nommer une séquence où il a fait quelque chose de...
En fait, moi, je vais t'en nommer une. Il y a eu un but refusé, mais finalement, le gardien avait été bousculé, la cage a sorti. Ouais. Donc, le but n'a pas été bon, mais c'est pour moi la seule fois où est-ce que je l'ai vu. Et je te confirme, là, il n'était pas dans le match d'hier là, face aux Étoiles universitaires.
Ouais, bon, c'est ça. Mais c'est ça, on va simplement voir son développement. Ça demeure un joueur de... Là, c'est un late, là, donc 18 ans, va avoir bientôt 19. On va suivre ce que ça va donner du côté de la Ligue junior de l'Ontario, mais en tout cas, c'est... J'avais hâte de voir s'il pouvait se démarquer. Malheureusement, il ne s'est pas démarqué. On verra pour le futur et comment ça va se dérouler, mais bon.
Un joueur qui s'est démarqué, par contre, dans le match d'hier, c'est Justin Ducharme. Lui, on l'a vu à plusieurs occasions. Il a réussi à créer quelques chances de marquer, notamment lors d'un 2 contre 1, il a tiré sur réception. Il a aussi, lui, transporté la rondelle sur un 2 contre 1 et sur un 3 contre 1. Et ça m'a un petit peu dérangé. Sur le 3 contre 1, il a décidé de prendre le tir par lui-même alors qu'il avait clairement une option de passe. En tout cas, je ne me souviens plus tout à fait c'est qui était derrière. Là, je pense que c'est Riley Kidney qui était là. Mais il a décidé de garder la rondelle et de prendre le tir par lui-même. Donc ça, j'étais un peu déçu de voir qu'il avait mangé la rondelle dans une occasion en or de marquer. Mais c'est quand même un joueur qui a réussi à gagner des points parce que on l'a vu à plusieurs reprises là, sur la patinoire.
Mais c'est que Justin Ducharme, il faut comprendre, c'est un joueur qui joue nord-sud. Vraiment, là, c'est prend la rondelle, puis envoie-la au filet. Puis il y a un bon coup de patin quand même, là, malgré que c'est pas un joueur qui a été repêché, qui s'est déniché un contrat de Ligue américaine à 20 ans. C'est quelqu'un qui n'a pas un mauvais coup de patin. Le problème, puis tu sais, c'est là que c'est difficile, c'est facile de dire, OK, c'est un joueur qui mange la pote, comme on veut, comme on peut dire, là. Mais c'est que c'est davantage que c'est pas un joueur qui a une... Il n'y a pas vraiment de vision de jeu. C'est ça. C'est un peu ça. Là. C'est pas quelqu'un qui a le plus gros sens du hockey non plus. Moi, j'ai une séquence que je me souviens, je pense que c'est hier à 3 contre 2, une séquence comme ça. C'est lui qui a la rondelle, il est hors l'aile à droite. Puis, si je ne me trompe pas, c'est Joshua Roy qui est dans le centre. Un joueur vraiment talentueux, là, un joueur qui est calibre Ligue nationale, aurait probablement repéré le joueur en retrait, puis ça aurait donné une chance de marquer ou peut-être même un but. Mais Justin Ducharme, malheureusement, c'est ça, on appelle ça des joueurs qui vont jouer avec des œillères. Lui, ne va pas nécessairement réaliser qu'il y a les options autour, n'a pas nécessairement des yeux tout le tour de la tête. Donc lui, ça va être une seule option, c'est que je fonce au filet, j'amène un tir et j'espère qu'il y a des retours de lancer. Mais c'est pas que c'était un mangeux de pas, si on veut. Là. J'ai vu d'autres séquences où il remettait la rondelle et il n'y a pas de problème. Là.
Oui, c'est sûr. Mais ceci dit, c'est jamais une mauvaise chose de lancer au filet. Tu sais, lancer au filet, tu testes le gardien, comme tu dis, tu peux créer un retour, ça, c'est correct. Je dis juste que c'est comme arriver back-to-back, là, deux séquences de suite là, en deuxième période, deux surnombres, et dans les deux occasions, il décide de conserver le disque. J'aurais aimé ça voir une autre facette de son jeu, démontrer qu'il est capable de repérer un coéquipier. Malheureusement, il ne l'a pas fait, mais il a au moins mis à l'épreuve le gardien
universitaire. Mais c'est pour ça que c'est davantage un joueur qui, s'il atteint la Ligue nationale, moi je ne suis pas convaincu, là, mais au minimum la Ligue américaine, ça va être un joueur de troisième ou quatrième trio, quelqu'un qui va créer de l'échec avant parce qu'il a un bon coup de patin, qui est quand même intense dans les coins, là, ça c'est un bel aspect. Mais pour le fait de voir le match, là, avoir une bonne vision périphérique, parce qu'il y a deux ou trois séquences, c'est peut-être ceux-là que tu parles. Là. Il y a des joueurs dans la. Il y a quand même des joueurs à côté de lui dans la ligne de passe qui peuvent faire en sorte que si tu n'es pas nécessairement un joueur qui a une excellente vision de jeu comme un Mitch Marner, par exemple, là, tu ne vas pas nécessairement voir ces joueurs-là. Tu vas tout simplement voir l'option au filet et dire « OK, j'amène ça au filet puis je ne me casse pas la tête, j'envoie ça. »
Puis ouais, le pire, c'est que ce n'est pas le joueur qui a le meilleur lancé non plus. Mm. Je comprends, mettons, quand tu as un joueur qui a tout un tir des poignets qui décide de garder la rondelle à 2-1, mais c'était pas des tirs. Là. Le gardien a fait l'arrêt, mais il n'a pas non plus dû réaliser. Il n'a pas sorti la mitaine in extremis là, pour empêcher la rondelle de pénétrer dans le filet. Donc, c'est un peu ça. Là. Il me faisait un peu penser à Brendan Gallagher, en fait. Une fois, Gallagher est compatible dans le coin, il se retrouve à 2-1, pose pas de questions, je shot ses pattes. C'est un peu ça. Là, que... s'entend. C'est une comparaison boiteuse, là, mais tu comprends ce que je veux dire.
Oh, non, je comprends tout à fait. Mais tu sais, je pense qu'on va voir aussi, là, il s'en va au camp principal. Je ne me trompe pas, il est dans le groupe C, par contre.
Il n'a pas été retranché.
Il est dans le groupe C, là, davantage avec les joueurs plus...
Marginal.
Ils sont un peu là parce que le camp du Rocket n'est pas ouvert encore. Là. Donc, je pense que on va simplement voir qu'est-ce que ça va donner dans un calibre un peu plus inférieur, là, entre guillemets, parce que je pense que le camp du Rocket ressemble un et peut-être légèrement supérieur à ce qu'il a connu au camp des recrues, mais pas vraiment différent. Et moi, comme je le disais la semaine dernière, je m'attends à le voir à Trois-Rivières. Il y a trop de profondeur du côté du Rocket pour qu'il puisse se tailler un poste, je pense. Je pense qu'il va être davantage avantagé d'aller jouer beaucoup à Trois-Rivières. Comme je dis, là, les futurs partisans des Lions, ben, surveiller Justin Duchamp, ça pourrait être un... Tu sais, tu l'as mentionné, c'est un joueur d'intensité, là. Ça pourrait devenir un de vos coups de cœur. Pas nécessairement le meilleur pointeur, mais un coup de cœur quand même, parce que continuellement impliqué, continuellement acharné.
C'est plate que Nick n'est pas là, parce qu'il nous a beaucoup parlé de Daniel Sobolev là, la semaine dernière. Moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais, pas du tout, mais c'est dans les séquences qui ont ressorti de son jeu, c'est les revirements qu'il a causés, qui m'a tapé dans l'œil, notamment dans le match numéro 1. Là, il a quand même fait une pas pire gaffe là, le long de la bande. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a tapé dans l'œil de façon positive dans son cas?
Ouais, je vais être honnête avec toi, pas tant que ça. Là. Comme je te dis, il n'a pas été mauvais nécessairement. Là, il y a un gabarit correct. Là. Moi, je l'avais vu surtout à 16 ans. Donc, c'est sûr que ça a amélioré au niveau de son gabarit. C'est pas un. Il est quand même mobile, bouge bien la rondelle, mais il se débrouille quand même un peu défensivement, tire un peu son bout, mais tu sais, pas plus qu'il faut. Là. J'ai trouvé que c'était. C'est ça, ordinaire. Là. Faisait le travail, mais sans plus. Je pense qu'il faudrait vraiment que j'en voie davantage. Là. J'ai vu certains experts qui, eux, ont vraiment adoré ces matchs. Là. Je peux pas vraiment dire ça, moi, malheureusement.
Ben, c'est correct. Je veux dire, chacun sa propre façon d'analyse. Là. Moi, c'est pas un joueur que j'ai trouvé qui s'est démarqué, mais je l'ai pas trouvé pour autant atroce non plus. Mais comme je te dis, les séquences où est-ce que j'ai vraiment eu l'occasion de le voir sur la patinoire, c'était pas des séquences qui étaient nécessairement positives.
Non, c'est ça. Puis, je pense qu'il y a un potentiel un peu pour se débrouiller physiquement, si tu veux. Là, par moment, j'avais l'impression de voir un peu Romanov, mais peut-être un peu moins gros, si tu veux. Mais c'est peut-être boiteux, puis il y a quand même 18 ans aussi, là, on va voir. Là, mais c'est une simple réflexion. Je suis peut-être complètement dans le champ aussi.
C'est correct. L'échantillon est petit. Là, on aura l'occasion d'en voir un peu plus là, dans les prochains jours. Un qui ne sera pas là dans les prochains jours, en raison de blessure, c'est Josh Brook. Opéré au bas du corps, va manquer plusieurs mois d'activité. On ne s'attend pas à le revoir en 2021. Ça, c'est dommage quand même pour Josh Brook parce que c'est un joueur qui démontrait de belles choses. L'année dernière, était dans ceux qui s'illustraient avec un peu Corey Schooneman là, à Laval. Là, je trouvais que Josh Brook était dans les joueurs qui étaient solides. Malheureusement, Josh Brook opéré un très mauvais timing. Ça va lui faire mal, ça.
Ben, c'est clair, c'est dommage. Puis d'autant plus que... T'sais, on en a souvent parlé, mais la défense des Canadiens présentement est très physique, pas nécessairement mobile. Puis t'as pas vraiment de joueurs pour relancer l'attaque, pour effectuer une première passe, pour aider les entrées de zone, pour être bon en avantage numérique. Je pense que c'est pas pour rien qu'on parle autant de Norlinder, mais oui, il y a un Chris Wideman qui a signé un contrat. Mais je pense que Josh Brook aurait pu s'amener au camp. Et s'il avait connu un excellent camp, là, vraiment, tu te signales à tous les soirs, tu obtiens des points. T'aides vraiment ton équipe à gagner des matchs, Honnêtement, je pense qu'il aurait fallu le considérer parce qu'on s'entend la profondeur est davantage à gauche chez les défenseurs pour les espoirs qu'à droite. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'il y, il y aurait eu un étrier extraordinaire d'entraînement. Ce serait arrivé au camp, serait arrivé tellement dominant qu'on aurait laissé aucune chance à Dominique Ducharme pour le garder dans la formation. C'est ça que moi je trouve dommage dans son cas, c'est que je pense que là, cette année, il y avait une réelle opportunité. Parce que là, l'année prochaine, supposons que Norlinder s'améliore vraiment beaucoup et que là, il est de calibre Ligue nationale, là, le poste revient à Norlinder ou que tu as un Jordan Harris qui débarque. Ou, là, je sais que c'est des défenseurs gauchers, mais que tu as un Harris qui débarque.
Qui
un
des chandails, là.
C'est ça. Ouais. Mais tout simplement pour dire que là, présentement, le champ est un peu libre. Mais là, l'année prochaine, il y a peut-être un Jordan Harris, un Jaden Strobel, un Orlinder qui vont débarquer. Kaden Gooley va avoir 20 ans, donc au minimum, va disputer des matchs dans la Ligue américaine. Et il y a des bonnes chances qu'il se dispute des matchs à Montréal également. Puis là, il y a peut-être des joueurs que on ne le sait pas, mais les Canadiens ont peut-être repêché en fait, Logan Mailloux est encore dans le portrait. Donc,
s'il lui est droitier.
Il est droitier en plus. S'il se développe, et c'est un excellent joueur pour bouger la rondelle, donc si, là on s'entend, il y a encore la saga, mais bon, s'il finit par disputer des matchs et qu'il est excellent, c'est peut-être Logan Mailloux. Voilà. Tout simplement pour dire que c'est dommage parce qu'il aurait pu avoir une très belle opportunité cette année et ça va peut-être jamais se reproduire, malheureusement.
Ouais, je suis d'accord. Puis tu as un bon point quand tu dis qu'il y a un prototype qui est différent des autres joueurs parce que Edmundson, Chiarot, Weber, Savard, on dirait que c'est tous des frères. Là. Ils sont tous dans le même moule. Ils ont tous sensiblement le même style de joueur. Josh Brook n'aurait pas apporté quelque chose de différent à cette brigade défensive-là. Évidemment, je sais que Weber est blessé. Là. Nul besoin de l'écrire sur le chat. Là. Mais ça reste que c'est ça. Josh Brook, ça aurait été peut-être différent, qu'on aurait pu utiliser une autre sauce. Malheureusement pour lui, blessé et opéré entre plusieurs mois d'activité.
Puis l'autre aspect que j'aurais aimé voir, je te dirais que c'est surtout en raison du changement d'entraîneur à Laval. Rien contre Joël Bouchard, mais moi, ce que j'ai toujours trouvé de Joël Bouchard, c'est que c'est pas nécessairement le joueur qui utilise le mieux à bon escient ses éléments offensifs. C'est quelqu'un qui va pousser à travailler fort, que ses équipes vont toujours avoir la pédale dans le plancher constamment. Mais lorsque tu as des joueurs plus unidimensionnels offensifs, si tu veux, j'ai toujours trouvé, et ça remonte dans les rangs juniors, qu'il y avait plus de difficultés à travailler avec ces joueurs-là. Et Josh Brook, c'est pas mal un gars, un spécialiste offensif qui a des carences en défense. Moi, j'ai jamais été un fan parce que je trouvais qu'il y avait peut-être trop de carences en défense pour ce qu'il apporte en attaque. Mais là, c'est Jean-François Houle. Je pense que Jean-François Houle, lui, davantage, et j'ai lu des textes dans la dernière semaine qui tendent à prouver ça, c'est davantage un psychologue, davantage quelqu'un qui travaille en fonction de 20, tu sais, le fameux classique, là, 23 individus, plutôt qu'une équipe, là. Puis constamment en train de parler. Je pense que Jean-François Houle aurait peut-être été très bon pour aider Josh Brook à se sentir en confiance, de jouer son style, et surtout de lui donner du temps de jeu. Là. C'est ce que je trouve dommage. Là. Même s'il n'avait pas joué à Montréal, je pense qu'à Laval, il aurait peut-être pu avoir une plus belle opportunité avec Jean-François Hull qu'avec Joël Bouchard. Mais bon.
Marty, est-ce que tu as un dernier mot à dire sur le camp des recrues du Canadien avant qu'on change de sujet?
Non, je dirais que c'est pas mal ça. Je te dirais, bon, il y a peut-être Yann Michak que j'ai, comme je t'avais dit, moi, il m'avait semblé avoir pris du poids lorsque j'avais vu regarder un entraînement. Et j'ai pas d'essai ce que j'ai vu. Je pense qu'au niveau physique, il s'est vraiment amélioré et il a bien tiré son épingle du jeu face au Sénateur. Je pense quand même.
Il est allé jouer dans le trafic aussi, Michak. Il n'est pas resté en périphérie tout le long, là, notamment le but qu'il a marqué. Il était au bumper, donc il était vraiment dans le milieu de la patinoire, puis c'était pas un joueur là. Moi aussi, j'ai bien aimé là, les choses qu'il a apportées dans les rencontres qu'il a disputées.
Tu fais bien de parler de son but lors du premier match, et c'est là que je vais rajouter encore sur Joshua Roy à quel point ça y a connu un bon camp. Là. Ils font un genre de permutation, si tu veux. Joshua Roy est à la pointe, je pense qu'il prend la place d'un défenseur, puis il y a une genre de permutation. Michak, lui, il suit davantage sur le long de la rampe, puis il va repérer. Il va faire une genre de permutation où Joshua Roy prend la rondelle sur le long de la rampe et Michak va se retrouver dans l'enclave. Tout simplement pour dire qu'il y a une permutation qui va un peu mêler les Sénateurs. Ça, c'est des signes d'un joueur qui a une certaine compréhension de jeu, d'un certain hockey IQ, si tu veux, justement, d'être capable de mystifier l'adversaire. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et tu parlais de l'aspect physique. Ben, moi, malheureusement, ce que je vois avec Jayan Bichak, c'est davantage un rôle de milieu de formation et peut-être davantage troisième trio. Donc, dans ce cas-là, si tu es un joueur de troisième trio, c'est indéniable que tu dois être bon dans les coins. Il faut que tu fasses l'échec avant. Il faut que tu sois capable de créer des revirements. Et là, c'est pour ça que c'est positif d'avoir vu, que, comme tu dis, qu'il se met le nez dans le trafic, qu'il est capable de, bon, pas toujours remporter ses batailles, mais il a mieux, vraiment mieux paru là, lorsqu'il était à Laval la saison dernière. Là, il manquait de coups de patin, il manquait de force physique. Là, ça va très bien. Puis, je lui souhaite de retourner à la Ligue de l'Ontario pour développer son jeu offensif. Mais sur le plan physique, c'est... Si on avait une situation comme la saison dernière, je serais à l'aise de le voir à Laval. Mais comme okay. Je te dis, là, j'aimerais mieux le voir dans la Ligue junior de l'Ontario pour développer son jeu offensif.
Donc, ça a fait le tour pour le camp des recrues. Là. Bon, évidemment, les tests physiques, c'est aujourd'hui. Demain, c'est le vrai camp. Pour les gens qui nous écoutent en différé, là, demain, c'est jeudi. Le vrai camp des Canadiens s'amorce. Et je pense que le premier match préparatoire, c'est samedi. Si je ne m'abuse, donc ça va être intéressant à surveiller. Avant de te laisser aller...
Je te confirme que c'est le 25, le premier match préparatoire.
Donc, c'est bel et bien samedi. Ouais. Avant de te laisser aller, Marty, j'aimerais ça t'entendre sur une situation. C'est Darren Dreger là, qui l'a sorti en premier à TSN 690. Ça a été aussi confirmé par la suite par Renaud Lavoie. Après avoir été laissé de côté lors du match de la finale de la Coupe Stanley, Kotkaniemi et son clan ont indiqué à l'organisation des Canadiens qu'il venait de disputer son dernier match avec l'organisation montréalaise. Qu'est-ce que ça dit, ça, quand un jeune joueur aussi peu avancé dans sa carrière critique une décision d'être laissé de côté en finale de la Coupe Stanley? Est-ce que l'organisation montréalaise n'a pas un peu drop the ball avec sa gestion de Kotkaniemi, sa gestion des jeunes? Est-ce qu'on n'aurait pas dû... comment on aurait pu gérer ça différemment pour que tout ce cirque-là ne se produise pas?
Ben, écoute, sur la situation de Kotkaniemi en particulier, j'ai le goût de te dire que des situations comme ça avec des jeunes qui n'ont pas nécessairement de temps de jeu, qui ont nécessairement d'opportunités, honnêtement, t'en as partout dans la Ligue. Logan Brown, avec les Sénateurs, a signé un contrat dans les derniers jours, mais il demandait une transaction. Puis il menaçait même d'aller jouer en Suède, qui aurait été une très mauvaise décision selon moi. Mais il menaçait même d'aller jouer en Suède s'il n'obtenait pas un contrat à un volet. Alors que si tu regardes les statistiques de Logan Brown, c'est pas mal un joueur de Ligue américaine qui a... Tu sais, je veux pas être plate, là, mais ça s'enligne pour être un flop, si tu veux. Là. C'est un joueur qui obtient un point par match dans la Ligue américaine. Dans la Ligue nationale, il y a eu certains moments avec Brady Tkachuk parce que c'est des amis d'enfance. Là. Ils viennent du même coin, ils viennent de la région de Saint-Louis. Mais c'est difficile. Et là, tu vois les jeunes pousser chez les Sénateurs. Il n'y a plus de place. Mais malgré tout, il met de la pression, il dit « Moi, je veux jouer dans... J'ai une place à Ottawa, je dois dominer, il faut que vous me fassiez jouer. Je mérite un contrat, un volet. » Alors que les statistiques prouvent que c'est un joueur de... Il n'a pas prouvé qu'il méritait un contrat, un volet, bien au contraire pour l'instant. Puis chez le Wild, tu as un joueur comme Brandon Menell qui lui souhaitait un... Brandon Menell, pour faire la petite histoire, c'est un défenseur quand même très bon offensivement qui a été le... Je me trompe pas, le deuxième meilleur pointeur chez le défenseur de la KHL la saison dernière. Et il est quand même jeune, là. Il a 23 ou 24 ans. Puis lui, c'était un peu la même chose. Lui souhaitait un contrat, un volet. Il dit « Moi, je veux ma chance, je veux jouer dans la LNH. » Puis le Wild ne voulait pas vraiment. Il disait « Non, tu dois faire tes galons, tu dois progresser davantage. Nous, on t'a pris un contrat à deux volets. » Puis finalement, ben, le Wild a échangé au Maple Leafs de Toronto contre un choix de 7e tour, je pense. Vraiment contre rien. Là. Donc, tout ça pour dire que la situation de Kotkaniemi, ça, je pense que ça arrive dans toutes les équipes. Je pense que les Canadiens, là-dessus, je pense, prenaient la bonne décision. Là, de, je ne sais pas ce que tu en penses, désolé, mais moi, je pense que de tenir ton bout, de dire, écoute, c'est les Canadiens de Montréal qui vont primer avant d'espérer Kotkaniemi. Adapte-toi, rentre dans le moule. Fait partie du concept d'équipe. On n'a pas pris une décision de te laisser de côté parce que tu étais mauvais, qu'on ne croyait pas en toi. C'est tout simplement qu'on voulait gagner des matchs en finale de la Coupe Stanley quand même. Là.
Ben oui, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, là. Puis moi, j'adore Kotkaniemi. Je le défendais, puis je le défends encore. J'espère que ça se passe bien pour lui en Caroline. Mais tu es en finale de la Coupe Stanley. À un moment donné, il faut que tu mettes ton ego à la porte puis que tu réalises que tu peux accomplir quelque chose de gros en tant qu'équipe. Là. Donc, c'est tout à fait normal. Mais là, de voir que psychologiquement, Parce qu'il a marqué des gros buts dans les séries, ça, je n'enlève rien. Mm. Mais la plupart du temps, là, il aurait pu marquer ses buts-là avec une perle parce que c'était souvent des retours de lancer qui mettaient au fond des filets. Mm. C'était pas... Il a marqué un beau but contre Toronto en prolongation. Ça dévie sur le bâton du défenseur. Donc, oui, il a marqué à plusieurs occasions, mais pas de là à dire qu'il transportait l'équipe sur ses épaules. Et Dominique Ducharme a tenté un spark, a tenté une étincelle pour brasser la soupe. Et là, finalement, Kotkaniemi, moi, c'est terminé à la Patrick Roy. J'ai un petit peu de la misère avec ça. Puis je ne sais pas si... Tu sais, Marky, tu sais, dans la NFL, là, on voit ça de plus en plus, là, des cas comme Le'Veon Bell qui décide de « Non, je fais la grève, je me retire. » Tu sais, je ne sais pas si ce trait-là, cet aspect-là du jeu va se transporter un peu dans la Ligue nationale de hockey parce qu'on en voit encore plein de joueurs qui sont RFA, qui n'ont pas encore de contrat, puis les camps s'amorcent. Donc, est-ce que les jeunes joueurs ne vont pas chercher plus à tenir leur bout, puis est-ce que ça va être une bonne chose pour la business? J'ai hâte de voir si cet aspect-là psychologique va être plus... on va mettre plus d'emphase là-dessus pour éviter ces cas-problèmes-là chez les organisations.
C'est dur à dire, on va bien voir. C'est certain que je pense que les jeunes... Ben c'est parce qu'il faut pas oublier que les jeunes sont bien meilleurs, plus jeunes, justement. La progression se fait beaucoup plus rapidement. Et là, ça fait en sorte que tu te retrouves avec des joueurs qui se retrouvent avec une deuxième année de contrat, qui là se disent, on est déjà dominant dans la LNH. Il y a encore plein de défauts de d'autres côtés. Là, je pense surtout à la situation de Quinn Hughes à Vancouver. Là. Ça semble se compliquer. Je sais pas si tu as vu les commentaires de Jack Hughes là, qui... carrément dit « Ouais, mon frère a été mauvais défensivement, mais parce qu'il jouait avec une des pires équipes de la Ligue à Vancouver. » Alors que les Hughes sont très tissés serrés, je suis pas certain que c'est... Si je suis Jim Benning, directeur général des Canucks, je suis pas certain que j'apprécie ces commentaires-là.
Ben, surtout pas que Luke Hughes vient d'aller rejoindre Jack Hughes, à que Quinn Hughes, d'après moi, ça lui tente d'aller au New Jersey.
Ça lui tente d'aller au New Jersey, ça, je pense que c'est indéniable. Mais c'est sûr... Puis je pense que la situation qui est compliquée dans le cas de Hughes, et je pourrais même te parler de Kirill Kaprizov. D'ailleurs, j'ai porté mon superbe chandail ici.
Oh! Nouvellement, sous contrat, Kirill.
Écoute, on est très... c'est très heureux. C'est le plus beau moment de l'été, selon moi. Mais bon... mais bon, tout ça pour dire que Hughes et Kirill Kaprizov, parce qu'ils ont brûlé des années de contrat sans avoir joué ou très peu, là, si tu veux, se retrouvent avec la clause 10.2C. Ça veut s'en faire en sorte qu'ils ne peuvent pas recevoir d'offres style comme KK, justement. Et donc, tu dois donc te trouver d'autres façons d'avoir des arguments de négociation. Et là, malheureusement, je pense que c'est de faire durer le suspense le plus possible, si tu veux, pour essayer d'avoir le plus que tu veux, tu sais. Et là, je pense que c'est un peu la situation dans le cas de Quinn Hughes, de Kaprizov, et c'était le cas de Rasmus Dahlin avant qu'il signe un contrat quelques minutes avant l'enregistrement du podcast. Mais je pense que c'est un peu ça, le point de vue, tu sais. Mais moi, je veux revenir... Non, mais vas-y.
Moi.
Non, vas-y.
Ben, je voulais juste dire, je trouvais ça comique que Dahlin ait signé 6 millions alors que Kotkaniemi a signé 6.1. Mais si c'était pas de l'offre hostile, est-ce que Kotkaniemi, son cas serait réglé ou ce serait encore en attente? Moi, je me pose sérieusement la question parce qu'il y a plein de joueurs qui sont toujours en attente d'un contrat. Si Kotkaniemi avait envoyé le message clair à Marc Bergevin qu'il ne venait pas de retour avec l'organisation, peut-être que lui aussi, on serait en attente d'un dénouement là, dans son cas.
Moi, j'ai l'impression qu'il aurait signé un contrat si c'est pas dans les derniers jours, là, ça s'en viendrait. Là. Parce que on se le cachera pas que Kotkaniemi, tu regardes ses statistiques, c'est pas quelqu'un qui peut prouver que c'est un joueur dominant et qui est établi dans la LNH. Quand même, un joueur de, si je ne me trompe pas, 20 points la saison dernière. Là.
5 buts. Donc, en saison régulière, 5 buts.
Donc, c'est ça. Il n'a pas encore prouvé que c'est un joueur dominant. Et c'est pas vrai que tu peux être Marc Bergevin et dire « Ok, je vais lui donner 6 ou 7 millions tout de suite. » Bon, visiblement, les Hurricanes l'ont fait. Là. Mais tout ça pour dire que je pense qu'à un moment donné, lui, il se serait dit « Ok, je dois me prouver, je dois montrer à la planète hockey que je suis dominant, que je suis capable d'être très bon dans la LNH. » Il aurait tout simplement fini par accepter le 2 ou le 3 millions, puis aurait pris son... Il aurait peut-être pas signé un gros contrat, peut-être un an, mais il aurait tenté de prouver davantage sa valeur, travailler davantage. Dans le cas de Logan Brown, c'est un peu ce qui est arrivé. Il a finalement accepté un contrat à deux volets, je pense à 750 000 $ le minimum. Puis il s'est dit, tout simplement, c'est-tu quoi, je vais rebondir plus fort. Je vais travailler, je vais montrer à tout le monde que je suis un joueur de la LNH, un joueur dominant dans la LNH, quand même un choix de premier tour. Fait que je pense que dans le cas de Kotkaniemi, c'est la même chose qui serait arrivée. Puis là, par la suite, peut-être que ce serait ben là, finalement. Mais la différence avec Kotkaniemi et Quinn Hughes et Kaprizov, ben, c'est que Kéké, lui, pouvait avoir le freestyle. Donc,
exact.
Il n'est pas un membre des Canadiens.
All right, Marty, c'était encore une fois fort intéressant. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler du vrai camp, des matchs préparatoires. Probablement qu'on aura au moins une partie là, de disputer à ce moment-là. Donc, ça va être vraiment cool de voir comment ça se déroule. Puis, mine de rien, on est rendu le 22 septembre. La saison commence le 13 octobre. Tu disais?
Oui, le 13 octobre, oui, c'est ça. Non, mais j'ai rien.
Okay,
non, excuse-moi, je me grattais la tête.
Je pensais que tu voulais renchérir. Alors, sur ça, Marty, encore une fois, c'était bien amusant. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour parler prospect. Merci à vous à la maison d'être avec nous et de nous suivre. C'est encore une fois très apprécié. N'hésitez pas, si vous avez des questions, faites-nous les parvenir via notre page Facebook ou encore sur YouTube et ça va nous faire plaisir d'y répondre. En mon nom personnel et en celui de Martin Thériault, je vous souhaite de passer une belle journée.